FM, le mag, la vie du pays Midi-Quercy.
Le mag du pays Midi-Quercy, une émission soutenue par le programme européen Leader et réalisée à CFM Caylus. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous dans ce mag où aujourd'hui dans la chronique Les Circuits Courts, bonjour, on partira à Saint-Antonin-Nobleval découvrir la ferme du Rabadet, toujours en installation à la rencontre d'un jeune couple qui élève des brebis et produisent du fromage. Ce sera dans la deuxième partie de ce mag. Pour la première, on poursuit notre mini-série sur la transition écologique. On parle du contrat d'objectif territorial mis en place par l'ADEME, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie en partenariat donc avec le pays Midi-Quercy. C'est Mickaël Cornic-Garrigue qui en est chargé. Bonjour Mickaël.
Bonjour Lisa.
Alors ce contrat d'objectif territorial se tient depuis déjà quelques années. On a un petit bilan à mi-parcours en fait là.
Absolument. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on a eu la première visite annuelle d'un auditeur externe mandaté, missionné par l'ADEME pour venir sur les territoires du pays Midi-Quercy pour un petit peu tester, voir et suivre les actions mises en place par les communautés de communes depuis 2022. Puisque ce contrat d'objectif territorial a été mis en place depuis 2022 et la mise en application du programme d'action se fait depuis 2024. Donc voilà, il y a un certain nombre d'éléments qui ont été mis en place. Initialement, pour revenir sur la manière dont le contrat d'objectif territorial a été appliqué, en 2022, il y a eu une structuration de la gouvernance, la réalisation d'un état des lieux qui a été mis en place, fait par les communautés de communes et par les audits, notamment de l'ADEME et d'autres acteurs. Et il y a également l'élaboration d'une stratégie de plan d'action avec le choix des objectifs par les communautés de communes. Ce qui est intéressant dans ce programme, de ce contrat d'objectif territorial, c'est que les communautés de communes sont maîtres d'œuvre dans les objectifs qu'elles souhaitent mettre en place. C'est-à-dire qu'à chaque niveau, ce sont elles qui vont décider des actions et qui vont mettre le calendrier, qui vont désigner leur timing pour mettre en place toutes ces actions. Donc c'est intéressant pour elles, parce que c'est vraiment elles qui restent maîtres de ce programme.
Alors on parlait recyclage des déchets en Quercy-Caussadet, oui. On va parler vélo et mode de transport en Quercy-Vert-Aveyron la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme type d'action qui sont mis en place par les Comcom?
Comme action, vous avez par exemple sur certaines communautés de communes, notamment sur QRGA en Quercy-Rouergue-Gorges-l'Aveyron, vous avez en matière de mobilité la mise en place notamment de transports d'utilité sociale avec l'association Agir ABCD. Du coup, c'est en direction des personnes seniors et précaires et du coup, le but c'est de faire en sorte de leur offrir une possibilité de covoiturage pour aller découvrir des spectacles à Toulouse, Albi, Gaillac et du coup, ça leur permet de pouvoir avoir une vie sociale et de pouvoir continuer de se déplacer alors qu'elles sont peut-être un peu moins facilement le faire à l'heure actuelle. Donc vous avez par exemple également en matière de déchets la mise en œuvre de la redevance spéciale pour les professionnels. Vous avez également le kit de tri déchets qui est mis en place notamment sur les événements, qui a été acheté par la communauté de communes QRGA et qui du coup est mise à disposition des associations lors d'événements. Vous avez par exemple aussi le fait de créer une objetothèque. Bon, ça c'est en cours, c'est le but de pouvoir conserver un certain nombre d'objets, de pouvoir les mettre à disposition des personnes dès lors qu'elles en ont besoin. Donc voilà, il y a plusieurs types d'actions qui sont mises en place. Là, je cite sur QRGA, mais vous en avez d'autres sur d'autres communautés de communes que vous verrez notamment avec avec Morgan Tellier la semaine prochaine, je crois.
Le maire de Nègrepelisse. En tout cas, le terme de contrat d'objectif territorial, le code prend tout son sens. Hein. C'est vraiment. Alors vous, le pays Midi-Quercy, êtes chargé avec l'ADEME de récolter les sous, et puis ce sont les communautés de communes qui vont décider dans quoi elles vont les investir. Le tout évidemment dans un objectif de transition énergétique.
Alors pour être plus précis, Lisa, oui. Si je peux me permettre, le COT en fait c'est nous qui récoltons les sous et qui les reversons aux communautés de communes dès lors qu'elles ont mis en place les actions. Parce que le principe de ce contrat d'objectif territorial, c'est qu'il y a eu un bilan qui a été un audit initial qui a été mis en place, qui a été fait au début de la démarche, qui note les communautés communauté de communes en fonction de leur niveau de progression sur les thèmes de transition écologique, économie circulaire et climat et énergie. En fonction de cet audit initial, les communautés de communes font leur plan d'action avec des actions qu'elles considèrent comme réalisables sur les quatre années de mise en place du code. Et à la fin, l'objectif, c'est qu'elles aient une note meilleure pour pouvoir avoir l'argent de l'ADEME.
Mmh. Ah ouais, en gros, alors là, il faut dire aux citoyens, investissez les conseils municipaux, dites à vos élus de plus s'investir, comme ça, il y aura plus de sous de la part donc, de l'ADEME dans le cadre du code via donc, le PMI d'Icarcy.
Voilà, absolument.
Donc ça c'est acté. Pour la suite ?
Alors, pour la suite, nous avons, comme je le disais au tout début, réalisé la première visite annuelle donc de l'auditeur externe qui a été mandaté par l'ADEME en 2024, qui est venu et qui a du coup fait un rapport de visite pour dire notamment à quel niveau on se situait de l'objectif de réalisation des actions. Il y aura une deuxième visite annuelle qui sera réalisée en 2025, donc à fin d'année, vers octobre 2025, avec toutes les communautés de communes. Donc, à chaque fois, lors de ces visites annuelles, cela réunit les groupes de travail qui agissent sur ces actions au quotidien, donc les chargés de mission et les techniciens de chaque communauté de communes qui agissent dans le cadre de ce COT, les élus référents qui doivent connaître de ces sujets-là, et également, et ce qui est une particularité, c'est que le COT réunit par communauté de communes, des techniciens référents qui vont être mes interlocuteurs pour voir l'avancée du projet, du programme sur les communautés de communes. Donc sur QRGA, c'est François-Xavier Bonvoisin, sur QC, Quercy Caussadé, c'est Lionel Ramy, et sur Quercy Vert Aveyron, c'est Véronique Verdier. Et donc à chaque fois, ces interlocuteurs sont des relais qui permettent aux agents des communautés de communes de pouvoir savoir à quel niveau il se trouve sur l'avancée du projet du programme COT. Le programme COT se termine en 2026, donc fin 2026, il y aura du coup un audit final qui permettra notamment aux communautés de communes de voir leur niveau de progression, et à partir de là, l'ADEME pourra définir le montant et l'argent que les communautés pourront recevoir à la fin de ce programme.
Ben allez, on interpelle donc ces élus sur les trois communautés de communes qui font partie donc du PETR du PMI d'Icarcy, la communauté de communes Quercy-Rouergue, Gorge de l'Aveyron, Quercy-Caussadé ou encore Quercy-Vert-Aveyron qui donc bénéficient de ce contrat d'objectif territorial financé par l'État et distribué par l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, par l'ADEME pour le PMI d'Icarcy. C'est vous, Mickaël Corny-Garric, qui êtes chargé de ce COT du coup. Merci beaucoup.
Merci Lisa.
Circuit court, rencontre et savoir-faire pour la deuxième partie de ce mag où on confie le micro à Marie Brandy pour le PMI d'Icarcy qui nous fait découvrir chaque mois une ferme, un collectif ou une initiative du territoire dans sa chronique. Les circuits courts, bonjour.
Les circuits courts, bonjour. Je vous propose aujourd'hui une rencontre avec Suzanne et Lucas à Saint-Antonin dans les vallons très jolis et très verdoyants. Bonjour Suzanne et Lucas.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes nouvellement installé avec des brebis. Combien vous en avez ?
On en a qui produisent à peu près 70 et en tout on a peut-être 80-90 avec les mâles et les jeunes qu'on garde.
Et sur combien d'hectares du coup ?
Alors on exploite une petite quarantaine d'hectares avec 10-11 de prairies autour de la ferme et puis le reste en culture et prairies ouais. Pour le foin.
On a 10 en propriété autour de la ferme et après on nous laisse faucher une petite trentaine.
Et alors, vous êtes installé depuis combien de temps ?
Alors, ça va bientôt faire 3 ans qu'on a acheté cette ferme. Et comme c'était pas habité depuis 50 ans, on a passé 3 mois à installer la bergerie. On a passé la première année à faire grandir nos petites agnelles. Et ça fait bientôt 2 ans qu'on est en production de fromage et yaourt, du coup au lait de brebis.
Vous avez toujours rêvé de faire ça ? Ou c'est venu au fur et à mesure
Suzanne, je pense qu'elle a toujours eu dans l'idée de faire de travailler dans le monde agricole. Après, elle a fait des études et finalement, elle a décidé de s'installer. Et moi, par contre, parce que Suzanne, toi, t'as tes parents qui étaient éleveurs aussi, quand t'as grandi ici, à côté.
Je raconterai après.
Et voilà. Et moi, par contre, je suis pas du tout éleveur. Moi, j'étais ingénieur du son avant.
Okay.
Je suis toujours d'ailleurs. Et c'est la rencontre avec Suzanne et le projet qui m'ont séduit. Et voilà. Donc moi, je découvre le métier en même temps. Enfin, je me suis formé un peu pour la transformation fromagère, mais sinon je découvre beaucoup avec Suzanne depuis qu'on a acheté, depuis qu'on est ici depuis 2022. Voilà.
Et alors, c'est conforme à ce que vous imaginez ?
Ouais, c'est conforme complètement. En fait, le truc qui est vraiment bien, c'est qu'on a fait beaucoup de visites de collègues. On est allé en Ariège, on a été voir autour de chez nous, et du coup, on a vu pas mal de gens qui ont le même système que nous. Et donc, je suis pas complètement surpris, quoi. Je savais à quoi m'attendre et c'était vraiment, d'ailleurs, ce qui m'a donné envie de m'installer avec Suzanne. C'est de voir que il y a plein de façons de faire et que vraiment, il y a des gens qui s'en sortent très bien ou des gens, enfin, il y a plein de systèmes et qui permettent de s'épanouir et de faire comme on a envie. Voilà.
Et vous, Suzanne, alors ?
Alors moi j'ai grandi à la ferme, mes parents étaient en polyculture élevage avec des chèvres laitières et des vaches allaitantes. Et puis c'est mon grand frère qui a repris cette ferme. Et moi j'ai fait des études, j'ai travaillé un petit peu dans la recherche et pour finalement me dire que j'avais fait beaucoup de choses très chouettes mais je ne pouvais être que agricultrice.
C'était la recherche en quoi ?
La recherche sur la photosynthèse dans les algues, dans les micro-algues marines.
Ok.
Voilà, c'est un doctorat. Et quand j'ai fini mon doctorat, ça a été comme une évidence qu'il fallait que je rentre dans mon village natal et que je cherche un endroit pour faire de l'agriculture. Du côté de mon père, ils sont agriculteurs de génération en génération depuis...
La nuit des temps.
La nuit des temps, je ne sais pas, au moins depuis Louis XIV. Et j'avais vraiment à cœur de continuer cette lignée et de profiter des savoirs et savoir-faire ancestraux transmis par mes parents. Et voilà, je trouvais ça dommage que ça se perde parce que c'est vraiment précieux. Et une fois que c'est perdu, c'est très compliqué, à mon avis, de retrouver.
Voilà. Ça s'apprend pas dans les livres, c'est ça.
Ça s'apprend pas dans les livres, ça s'apprend pas sur Internet. il y a une sagesse aussi ancestrale, je trouve, de savoir gérer avec sagesse les aléas de la météo, les aléas de la vie à la ferme, des bons, des mauvais moments. Et ça, je trouve que c'est vraiment précieux. Ouais.
Et du coup, pourquoi les brebis alors ?
Parce que.
Je pense que c'est un petit peu moi initialement. Non ?
Non, parce que le fromage de brebis, c'est trop bon. Tout simplement. Que le lait de brebis, nous, il n'y avait personne sur Saint-Antonin qui produisait du fromage de brebis. Et que nous, on aime beaucoup ces produits-là, tout simplement. Et que moi, depuis qu'on travaille avec, j'adore ces animaux aussi. Ouais. Voilà.
Je suis pas jalouse, mais je pourrais l'être.
Ah ouais. Ils ont quoi de particulier ?
Bah, en fait, on pense que, enfin, je sais pas, elles ont, je sais quand même, des, y en a, elles sont drôles, elles ont des caractères, enfin, les nôtres. Après, je pense que chaque troupeau est différent, mais les nôtres sont vraiment.
Faut que les avez élevés comme ça, c'est comme voilà. Les gosses, quoi.
Et puis, exactement. Et nous, on passe beaucoup de temps avec, on les regarde beaucoup, et puis, du coup, elles sont assez câlines, c'est vrai, on peut le dire. Et en plus, on peut avoir des agneaux, et c'est très bon, les agneaux aussi. Et on peut avoir de la laine. On a de la chance d'avoir Marie-Claude à Saint-Antonin qui va nous faire des chaussons cette année. Enfin, nous faire, qui nous a pris la laine pour faire des chaussons et les vendre.
Génial.
Et donc, voilà, c'est aussi un plus d'avoir plusieurs productions avec un même animal. Ça nous fait plaisir. Et voilà. Et en plus, ici, dans cette ferme qu'on a trouvée, c'est bien adapté quand même au pâturage de petits ruminants. Et voilà.
Voilà. Moi, j'avais été bergère et j'avais beaucoup aimé cette expérience. Du coup, ça me rappelle un peu les Pyrénées. Voilà.
C'est chiant, là. Et alors, c'est quoi le métier d'élevage maintenant ? C'est vous levez à 9h après une bonne nuit et
On pourrait. Si on mettait la traite à 10h, on pourrait très bien se lever à 9h. Par contre, on se coucherait peut-être pas à 8h. Mais nous, ça va pas. Enfin. L'élevage, nous, il ne faut pas qu'il soit trop prenant parce que c'est un de nos métiers, dans le sens où il y a aussi la transformation et la vente. Mais l'élevage en soi, c'est une traite par jour. Et après, là, dès qu'il fait beau, au mois de mars, on les sort. Et donc le pâturage, on essaye d'être assez précis sur les parcs pour vraiment valoriser l'herbe. Et après, c'est les mises bas, les agneaux, le stress un peu, que tout se passe bien. Voilà. Et ouais, comme on disait, c'est du plaisir et c'est aussi des soucis quand il y a des animaux malades. Mais quand on aime ça, c'est super. C'est super. Voilà.
Du coup, debout quelle heure alors ?
Ah, debout, alors nous, c'est plutôt. On attaque à 7h30, donc c'est debout 7h en général. Ouais. 7h pour avoir le lait pas trop tard et pour pouvoir transformer et pas finir. Au trop tard et ça dépend aussi des saisons. C'est-à-dire que l'été, on va se lever assez tôt pour les sortir parce qu'il fait trop chaud après la journée. Et l'hiver, comme le jour se lève plus tard, nous, on se décale un peu aussi. Mais voilà, en général, c'est autour de 8 heures, plus ou moins.
Bon, mais en gros, on se lève on commence à 7h30. Enfin, on est en installation, donc c'est pas complètement représentatif de ce que ça peut être en routine.
Ouais.
Mais en gros, on commence à 7h30. Et on finit pas avant 21h, 22h, 23h, minuit.
Ça dépend. Mais en ce
tous les jours de l'année.
Tous les jours de l'année.
Non, ça a été ça toute l'année.
Oui, c'est vrai.
Mais on est en installation et on n'est pas bien équipé. On passe beaucoup de temps à la traite, en fromagerie, c'est pareil. On n'est pas assez équipé par rapport au volume qu'on transforme. Et donc, on passe un temps infini à laver tous nos pots de yaourt à la main. Parce qu'on n'a pas de lave-vaisselle, on n'a pas de pasteurisateur. Enfin, on n'est pas bien équipé. Je pense qu'on peut réduire ça, mais il n'empêche que l'élevage aujourd'hui... Enfin, l'élevage, c'est tous les jours de l'année. Il faut qu'elle mange, qu'elle sorte, qu'on s'assure qu'il n'y en ait pas de malades, qu'elles aient de l'eau, que ce soit bien paillé. Et voilà. Et après, on a des périodes un peu plus chargées ou un peu moins chargées. Donc, un peu moins chargées, c'est quand il n'y a pas de lait. Quand on arrête de les traire et qu'elles finissent leur gestation. Et après, on laisse les petits pendant un mois sous la mer.
De août à octobre.
Donc de août à octobre.
Voilà. Ok, c'est le moment un peu plus...
C'est le moment plus creux. Et donc nous, on en profite pour avancer sur les travaux.
Eh oui.
Voilà, mais ça, c'est parce qu'on est en installation. Et après, il y a les annulages, donc la naissance des petits, où on se lève la nuit pour être là s'il y a un problème au moment de la mise bas.
Donc ça, c'est octobre.
Ça, c'est en...
Début novembre.
Voilà, plutôt. Début novembre.
Non, sur un mois et demi, tout dépend
voilà.
L'étalement.
Mais vous vous levez quand vous savez que, enfin, il y a des accouchements toutes les nuits, c'est ça ou...
Ouais, il y a des mises bas potentiellement toutes les nuits. Donc on se lève toutes les nuits, entre la première année deux fois, mais on était vraiment... on en faisait trop, je pense. Donc là, cette année, c'était plutôt une fois par nuit, on passait au milieu de la nuit, voir si tout allait bien. S'il y a eu des mises bas, on met les petits avec la mère dans une petite case pour qu'ils fassent connaissance, qu'ils s'imprègnent l'odeur l'un de l'autre, et qu'il n'y ait pas de mélange, et que la mère fasse bien téter les petits. Et on s'assure, parce que parfois il faut aider à la mise bas. Et là, il faut vraiment être là. Et on s'en voudrait. Pour l'instant, on n'a pas eu ce cas de figure, mais on s'en voudrait vraiment de ne pas avoir été là et que la maman ne s'en sorte pas.
Et il faut faire téter les petits dont la mère ne les a pas adoptés, ce qui peut arriver aussi. Et du coup, il faut donner des biberons. Et souvent, quand ils sont petits, c'est au milieu de la nuit, au passage. Voilà.
Ah oui. Alors, tout l'hiver, finalement, c'est...
Oui, mais ça, c'est aussi parce qu'on est des parents poules. Nous, on se relève, les petits, on se relève la nuit pour les faire téter. Je pense qu'ils survivraient sans cette tétée nocturne. Voilà. Et après, du coup, le reste de l'année, ben, on a quand même tous les jours la traite, une fois par jour.
Donc ça, c'est le matin.
C'est le matin. Et ensuite, on enchaîne en fromagerie par la transformation du lait. Et après, il y a toutes les tâches de soins. On nourrit trois fois par jour. À la belle saison, on les sort, on les rentre, on les ressort, on les re-rentre. On fait les parcs. Et après, il y a une autre période assez chargée qui sont les fenaisons. Donc là, on rajoute à la routine la récolte de l'herbe qui nous permettra de donner à manger pendant l'hiver quand l'herbe ne pousse plus.
C'est les foins.
C'est les foins, voilà.
Et ça, ça dépend du temps. Et
ça dépend du temps. C'est entre mi-mai et fin juin. Mm-hmm. Et en gros, nous, ça nous prend un mois et demi, quoi. Un mois et demi, deux mois. Ouais.
Et dans la vie parallèle, après, vous allez vendre en plus.
Et on va vendre sur les marchés. Donc là, on fait maintenant... On fait maintenant trois marchés par semaine. Le jeudi soir à Saint-Antonin. C'est un marché de producteurs bio et locaux, de 16h à 19h. On fait le dimanche matin à Saint-Antonin et on vient de rajouter le samedi matin à Montauban. Voilà.
Et pourquoi vous avez décidé de vendre en circuit court alors ?
Alors,
ça prend du temps.
Ouais, alors ça prend du temps, mais alors moi, ce que je trouve, après Suzanne donnera son opinion, mais ce qui est important quand on démarre comme nous, là, on développe des produits du coup qu'on met au point quasiment quotidiennement pour essayer de s'ajuster. Et il y a deux choses, c'est que c'est vrai que c'est super d'avoir le retour des gens au marché sur ce qu'on a fait. On peut leur dire, ah ben voyez là, on arrive en fin de lactation, le lait va être plus gras, donc les yaourts sont beaucoup plus consistants. Est-ce que là, on a des tomes qui sont un peu plus salé que d'autres, et voilà, donc ça c'est important pour nous d'avoir ce dialogue. Et ce qui est aussi super, c'est d'avoir le retour des gens. Du coup, c'est le moment où on sort de la ferme, c'est le moment où on peut discuter en échange avec nos collègues sur le marché, avec les gens du ouais. village. Et ça c'est vraiment galvanisant presque, parce que là on a de la chance en tout cas d'avoir des gens qui sont contents de nos produits, qui nous le disent. Et quand on repart le lundi matin après ces gros week-ends, ben on sait pourquoi on le fait. Ça, c'est vraiment un plaisir, un vrai plaisir. Voilà.
Vous faites combien de litres par jour, à peu près ?
Alors, c'est pas constant au cours de l'année, mais cette année, on était entre 40 et 90 litres par jour. Ça fait entre... Cette année, je pense qu'on va faire entre 10 et 12 000 litres à l'année. Voilà.
Et alors, après, vous transformez alors... combien ça fait de fromage, combien ça fait de yaourt ?
Alors, un litre de lait, ça fait un litre de yaourt. On n'a pas de perte. Et sur la tome, avec un litre de lait, on va faire 200 grammes de fromage. De tome, en tout cas. Voilà.
Et alors, donc pour le yaourt, vous pasteurisez ?
Ouais, on pasteurise. Alors, les tomes sont au lait cru. Et les yaourts, ça fait partie de la recette du yaourt de pasteuriser. On est obligé, sinon on ne peut pas l'appeler yaourt. Et nous, pendant cette pasteurisation, c'est là où on en profite, pendant la chauffe du lait, on en profite pour faire infuser des plantes. Donc ça peut être de la verveine, des feuilles de cassis ou de la vanille. Et c'est ça qui va donner le goût à nos yaourts. C'est pas des arômes.
Il a un goût de cassis, alors là.
Et alors, les feuilles de cassis donnent le goût cassis, sans l'acidité. Ça marche super bien.
Donc vous faites verveine, cassis et...
Et vanille, du coup de la vanille de Madagascar. L'année dernière, on faisait du mélilo aussi. C'est une légumineuse. On utilise les graines. Et certains chefs l'utilisent pour remplacer la vanille dans des desserts. Moi, je trouve que ça n'a pas vraiment le goût de la vanille. Mais par contre, ça a le même rondeur dans l'arôme, qui est assez agréable.
Ben, merci beaucoup. Puis alors, on vous souhaite force et courage. Et de bien réussir.
Merci. On est parti.
Merci à toi.
Merci à vous.
C'est Marie Brandy, la chargée de mission alimentation circuit court du Pays Midi Quercy, qui anime chaque mois cette chronique. Les circuits courts, bonjour. Merci à toi Marie. Le mag du pays Midi Quercy. C'est tous les lundis à midi, rediffusion à 17h et à 21h et en podcast sur le site cfmradio.fr.